Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale en partenariat avec l'AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Une émission spéciale consacrée à la thématique « Les jeunes et la politique ». Cette émission est en fait une discussion entre des jeunes et des élus. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Action-Réaction des jeunes rencontres des élus porté par le CRAJEP, un collectif d'associations régionales d'éducation populaire. Autour de la table, en face de moi, nous avons le plaisir d'accueillir Naji Yamdi, adjoint au maire de Pessac, délégué au développement social et urbain. Bonjour.
Bonjour.
Sandrine Doucet, députée PS de la première circonscription de Gironde. Salut.
Bonjour à tous.
À côté d'eux, on salue Bakary, bénévole à la FEV.
Bonjour.
Rémi, volontaire en service civique à la FEV.
Bonjour.
Yacine, bénévole à RCF, une Bonjour. Radio concurrente. C'est ça, hein?
C'est ça.
Lucien, bénévole à Radio Campus Bordeaux.
Bonjour à tous.
Chloé, qui est stagiaire aussi à Radio Campus. Salut.
Bonjour.
Aussi présent à la table des discussions, Lloyd Bastien, également volontaire en service civique à la FEV. Il jouera le rôle un petit peu dans cette émission de rapporteur officiel de l'enquête 2014 de l'Observatoire de la jeunesse solidaire menée par la FEV, Audirep et la Fondation BNP Paribas. Bonjour.
Bonjour.
C'est une enquête qui portait sur les jeunes et l'engagement politique. On est raccord. Alors, dans un premier temps, chacun va se présenter à tour de rôle. Il s'agit de faire un petit peu mieux connaissance avec vous tous. J'ai envie de savoir, moi, Nicolas de Radio Campus et aussi les auditeurs ont envie de savoir quelle relation vous entretenez avec la politique. Je vais donner la parole à Bakary, qui, je le rappelle, est bénévole à la FEV, qui va nous dire un petit peu sa relation personnelle avec la politique. Comment tu vois ça, toi, la politique ?
Alors moi c'est Bakary, je suis étudiant, je suis bénévole à la FEV et en fait j'accompagne un jeune 2 heures par semaine. Pour moi la politique c'est avant tout un engagement social direct sans forcément adhérer à un ou des partis.
Pourquoi tu as eu envie de t'engager bénévolement à la FEV ?
Pour plusieurs raisons, tout d'abord parce que c'est l'opportunité d'être utile socialement, d'aider des jeunes qui ont envie de s'en sortir et qui n'ont pas forcément les moyens d'y arriver.
Rémi, toi, tu es en service civique volontaire à la FEV. Et donc, ça consiste à quoi exactement ?
Depuis le 15 septembre, je m'occupe de mener des ateliers dans des collèges, donc des ateliers collectifs, pour faire des... Là, on fait des vidéos sur le harcèlement scolaire. Je gère aussi des bénévoles. Donc, j'ai 15 bénévoles dont je m'occupe, qui font comme Bakary, accompagnent un jeune 2 heures par semaine. Et à côté de ça, on organise aussi des événements comme les fêtes des solidarités locales à la fin de l'année et plusieurs choses dans le milieu de la culture et d'éducation populaire.
Lloyd, aussi oui. En service civique à la FEV.
Tout à fait.
Même question, hein, c'est pour...
Moi, c'est un peu différent. Ma mission n'est pas la même que Rémi. Je suis un volontaire en charge de la communication. C'est très très simple. En somme, c'est j'actualise le Facebook, c'est-à-dire des nouvelles qui arrivent fréquemment.
Toi, tu es community manager à la FEV.
Exactement, on peut dire ça. Je suis en charge du blog et de la newsletter mensuelle.
D'accord, ok. Yacine, alors toi, tu n'es pas à la FEV.
Oui, c'est ça. Moi, je suis à RCF. En tant que bénévole, en fait, on fait des reportages sur les associations de Bordeaux, qui sont donc diffusées tous les lundis soir.
La radio, ça te connaît, quoi ?
Un petit peu, oui. Je viens juste de commencer, en fait. Voilà, comme je l'expliquais, je suis sorti d'études. Et du coup, en fait, comme l'a dit Bakary, j'ai envie d'être utile socialement, de pouvoir aider au maximum et de vraiment pouvoir aider. Et la politique, ça peut être un tremplin, c'est quelque chose d'important, c'est une obligation chez les citoyens. Et le problème, c'est que ça a été trop terni ces derniers temps.
Lucien, tu es bénévole à Radio Campus, étudiant en histoire.
Oui, exactement. Et mon rapport avec la politique, c'est que j'y suis intéressé, mais pas spécialement engagé directement. mais j'y suis intéressé, puis c'est quelque chose, un sujet que je suis amené à développer à la faculté d'histoire, puisque justement, notamment cette année, comme je suis en master d'histoire contemporaine, il y a aussi un petit peu d'histoire immédiate, et donc on parle aussi beaucoup politique. J'ai même eu l'occasion de recueillir le témoignage d'un ancien député des années 80, donc j'ai appris beaucoup de choses sur pas mal de sujets que je ne pouvais pas connaître en tant que simple jeune.
Chloé, tu as un stage à Radio Campus dans le cadre d'une certification au métier de la radiophonie.
Oui, voilà. Et sinon, je suis étudiante en deuxième année de licence information et communication à Bordeaux-Montaigne. Donc on a été notamment amené à avoir des cours de politique très centrés sur la communication et les médias. Et du coup, c'est vrai que j'ai cet aspect-là de la politique qui est quand même assez intéressant. Il y a des choses à dire là-dessus.
Naji Yamdi, je le rappelle, hein, vous êtes adjoint à la mairie de Pessac, vous êtes délégué au développement social urbain, vous faites partie de ces jeunes élus. Pourquoi vous avez eu envie, vous, personnellement, de vous engager en politique et de vous porter candidat à la mairie de Pessac?
Ça s'est fait un petit peu comme une suite logique. Moi, j'ai un parcours un peu atypique, donc j'ai eu la chance de pouvoir exercer plusieurs métiers, même si je suis encore très jeune. Ce qui m'animait vraiment, c'était l'intervention sociale. C'était comment on essaie de se rendre utile pour ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin. Donc ça fait 12 ans aujourd'hui que je travaille dans les centres sociaux. J'ai fait deux centres sociaux, j'en ai fait un à Pessac et aujourd'hui je suis à Lormont. Et durant ces 12 années, j'ai pu me confronter aux institutions, j'ai pu travailler avec certains partenaires institutionnels. Et je me suis dit, bon, si je veux agir et avoir un minimum en tout cas de pouvoir, il faut qu'à un moment donné je puisse participer à la décision. Et donc mon engagement politique s'est fait un petit peu comme ça. C'était après 12 ans de terrain. Même si je continue encore un peu aujourd'hui, il fallait que je concrétise ça aujourd'hui et que je vois un petit peu, entre guillemets, l'envers du décor. Voilà.
Sandrine Doucet, vous êtes députée PS de la première circonscription de Gironde. La politique et vous, ça a toujours été l'amour fou?
C'est l'amour fou, je dirais surtout, vous savez, ce qui fait durer l'amour, c'est effectivement un engagement continuel et renouvelé. Voilà, alors j'emploierai pas ce terme d'amour, même s'il est très, très imagé et peut-être à la limite très amusant. Mais on va garder l'idée d'engagement.
Alors autour de la table, vous n'êtes pas tous engagés en politique, mais j'ai entendu que vous faisiez aussi des services civiques. C'est un engagement aussi, le service civique. Il a été beaucoup question ces derniers temps du service civique. Je voudrais avoir un petit peu votre ressenti autour du service civique en général, de cette possibilité qu'ont les jeunes aujourd'hui, pour les moins de 25 ans, d'entrer un petit peu dans le milieu professionnel par l'intermédiaire de cette démarche qu'est le service civique. Sandrine, peut-être ?
Oui, vous l'avez dit, c'est une question d'actualité parce que, à la suite des événements tragiques du mois de janvier, on s'est beaucoup posé cette question à l'Assemblée nationale sur l'appartenance républicaine, le sens donc de l'engagement. Et il y a eu donc, si vous en souvenez, le 23 janvier, le Najat Vallaud-Belkacem qui a lancé donc un programme de 11 mesures pour remobiliser la jeunesse autour des valeurs républicaines. Et le 5 février, à l'occasion de sa conférence de presse, le président François Hollande a parlé lui aussi de toute forme d'engagement et il a cité notamment le service civique. Là-dessus, l'Assemblée a été amenée donc à se saisir du sujet. C'est Claude Bartolone qui l'a fait pour l'Assemblée nationale et Gérard Larcher aussi l'a fait pour le Sénat. Chacun a remis de son côté un rapport sur ce thème qu'avait lancé donc le président François Hollande qui était l'appartenance donc l'adhésion à l'appartenance aux valeurs républicaines et toutes les formes d'engagement. Avec des réponses parfois différentes, peut-être qu'on reviendra là-dessus dans le déroulé du débat, mais le service civique, avec cette idée de s'engager de façon volontaire pour porter des valeurs de socialisation, des valeurs républicaines, c'est évidemment un des leviers les plus importants. Sauf qu'il ne faut pas simplement s'adresser à la jeunesse, et c'est bien le sens du travail qu'a remis Claude Bartolone, c'est-à-dire que tout un chacun doit participer à cette restauration des valeurs républicaines.
Naji Yamdi, à propos du service civique.
Bah écoutez, oui, je rejoins totalement donc ma collègue qui vient d'exprimer son avis sur ce dispositif qui est ô combien intéressant, notamment pour une partie de notre jeunesse qui, à un moment donné, se pose, se dit bah, « je vais pouvoir à un moment donné aussi me consacrer aux autres, rejoindre une structure, Alors, d'une manière générale, ce sont déjà des structures qui sont déjà engagées, alors j'ai envie de dire politiquement, hein, parce que pour le coup, quand on prend l'exemple par exemple de la FEV, on sait derrière quand même qu'il y a un engagement citoyen et politique assez, assez fort. Donc voilà, moi je trouve ce dispositif extrêmement intéressant. J'ai eu la chance, de par ma profession, de pouvoir travailler aussi avec des jeunes qui étaient en service civique. Donc ce sont des missions bien spécifiques qu'on leur confie, qui peuvent que faire grandir. Et ce que j'apprécie à travers ce dispositif aussi, c'est à un moment donné l'apport d'un nouveau regard dans une structure. Donc ils sont là peut-être pour 6 mois, 8 mois, enfin ça dépend. Et ils permettent d'avoir un regard nouveau. Et donc ça permet aussi de se re-questionner en tout cas pour ceux qui sont déjà dans ces structures-là. Après, nous avons connu des événements extrêmement tragiques en début d'année. Alors le service civique, ça ne date pas de 2015, hein, donc ça a déjà plusieurs années. Il y avait déjà beaucoup de jeunes qui participaient, donc c'est peut-être à un moment donné l'occasion d'encourager un peu plus peut-être une partie de la jeunesse à rejoindre ce genre de dispositif. Donc voilà, il faut essayer vraiment de conjuguer l'ensemble des efforts pour qu'on arrive à essayer de raccrocher au maximum ceux d'entre nous qui ont peut-être perdu espoir et perdu confiance en notre système.
Rémi, peut-être ?
Moi, je fais un service civique et je vois qu'aujourd'hui, mon service civique, quand je vais à Pôle emploi, quand je vais pour les allocations logement, tout ça, on ne reconnaît pas mon statut de service civique. Et j'ai droit quasiment à rien avec, hein, sauf une carte TBC gratuite. Mais
C'est déjà pas mal.
Mais par exemple, quand on est étudiant, on est plus reconnu, j'ai l'impression, que quand on est en service civique, et ça me pose problème.
Sur le service civique, c'est un sujet dont je me suis emparée, justement, parce qu'au mois de décembre dernier, le CRAJEP avait organisé toute une réunion, enfin tout un colloque là-dessus, comment les jeunes vivaient le service civique. Et ce que vous avez cité, comme exemple, est tout à fait parlant. Vous dites maintenant, je vais avec mon service civique à Pôle emploi et finalement, on n'en donne pas beaucoup de valeur. À l'écoute de cet exemple-là, moi, je me suis emparée de cette question et j'ai vraiment posé la question. Et notamment, je l'ai fait à l'occasion, donc au mois de janvier, puisqu'il y a eu toutes les concertations qui ont été menées donc à l'Assemblée nationale sur la notion d'engagement républicain. On a eu une table ronde avec le ministre de la Jeunesse, donc qui est Patrick Kanner. Et j'ai parlé de ce sujet-là. Vous voyez comme les informations remontent au ministre. Je lui dis, voilà, vous parlez du service civique. Mais si on veut attirer les jeunes vers le service civique et vers l'engagement, il faut donner une valeur à ce service civique. Alors, on est sur un débat, sur une espèce de quadrature du cercle, parce que si on donne une valeur ou une validation ou une valorisation au service civique, on lui enlève toute sa notion d'engagement, si vous voulez. D'engagement gratuit et volontaire. On lui donne une notion un petit peu marchande. Mais c'est un réel problème. Et voilà comment ça remonte, si vous voulez, ces informations. La question du service civique, c'est que si on veut l'intégrer dans un cursus de formation, puisque la question a été posée, c'est de le considérer comme un stage. Mais si c'est un stage, il est intégré forcément dans un cursus de formation, d'accord ? Un master ou autre. Et ce n'est pas sa vocation. Donc on ne peut pas lui donner un statut d'étudiant. Donc je vous donne en même temps la réponse à travers cet exemple-là. C'est la façon dont les politiques vont s'emparer d'un sujet, ils vont faire remonter ce sujet et puis ensuite communiquer là-dessus, c'est-à-dire voilà, vous donner un retour.
Univox.
Alors Lloyd Bastien, la FEV a mené une enquête en 2014 sur les jeunes et la politique. C'était vraiment la thématique abordée lors de cette enquête. Et il y a quelques chiffres, hein, qui peuvent faire agir autour de cette table. Tu pourrais commencer à en donner quelques-uns.
Bah oui, très simplement, la jeunesse s'intéresse vraiment à la politique. 80% des jeunes suivent l'actualité de la vie politique. Et je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Plus de la moitié de ces jeunes déclarent que la politique est importante dans la vie. Après, c'est vrai peut-être quand on leur pose la question plus concrètement sur les raisons qui font qu'ils s'abstiennent parfois de voter. Parce que ça, c'est vrai, c'est une réalité. Et bien là, on revient plus sur une crise démocratique. Je cite notamment Sophia, 21 ans, qui dit « Il y a une crise démocratique représentative. Les intérêts des jeunes ne sont pas du tout défendus. Il n'y a pas de lieu d'expression et de débat pour les jeunes. Les jeunes s'intéressent à la politique, mais ne s'estiment pas vraiment représentés. » C'est ça alors, qu'on peut dire pour l'instant.
Il me semble que l'enquête montrait aussi que 70% des jeunes qui ne vont pas voter disent que c'est à cause des mensonges répétitifs et réguliers des politiques qui tiennent pas leurs promesses, en fin de
oui,
compte.
Oui, 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 il y a ça aussi.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces chiffres, montrés du doigt un petit peu par cette étude, des chiffres quand même positifs, 80% des jeunes s'intéressent à la politique.
Oui, ce que vous dites là, c'est vraiment, ça interpelle les politiques. Donc, ils s'intéressent à la politique, mais finalement, ils trouvent que les moyens d'y accéder sont difficiles ou peu adaptés. Et moi, je pense qu'il y a un déficit de communication, parce que si on prend le constat de départ, si les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, c'est parce qu'ils estiment que la politique ne s'intéresse pas à eux. Et je crois qu'il faut quand même que vous ayez à l'esprit que depuis 2012, le gouvernement, le Parlement a quand même voté beaucoup de mesures en faveur des jeunes, notamment, puisque vous êtes étudiant, je vous parlerai de la création de nouveaux niveaux pour les boursiers, notamment le niveau zéro qui leur permet, donc on est à 135 000 boursiers supplémentaires, hein, c'est 450 millions d'euros qui sont donc attribués à ces jeunes-là. Et c'est aussi beaucoup de travail parlementaire, notamment des rapports qui sont faits. Et notamment, je vous invite à vous intéresser à un des rapports qu'a fait une députée qui s'appelle Anne-Lise Dufour-Tony sur la vie lycéenne. Voilà, ça vous ne le savez pas assez. Alors il y a évidemment tout ce qu'on peut annoncer en termes de budget. Mais vous avez plein de rapports parlementaires pour favoriser, pour montrer l'intérêt et les pistes à explorer. Donc là, il y a la vie lycéenne. Moi-même, j'ai fait un rapport dans le cadre de la Commission des affaires de l'Union européenne sur les mobilités, sur Erasmus, en disant qu'il faut qu'elle soit davantage ouverte vers des élèves, vers des étudiants qui ne sont pas déjà de soi intégrés dans le système usuel, c'est-à-dire le système universitaire, donc quand on part au niveau de la licence, mais en ouvrant ce dispositif aux élèves des lycées techniques, aux élèves des lycées professionnels, aux élèves des BTS, il faut qu'ils aient une aptitude, enfin davantage d'ouverture à cela. Et je suis aussi en train de travailler sur un autre rapport, toujours pour la Commission des affaires de l'Union européenne, sur la validation des acquis de l'apprentissage informel et non formel, c'est-à-dire des jeunes gens qui ont des parcours un peu chaotiques ou qui ont préféré faire des années de césure, s'intéresser à autre chose, et le service civique peut rentrer là-dedans. C'est comment on valide ça? Comment on le valorise? Comment on peut l'intégrer dans un parcours de formation? C'est-à-dire que faire que tout soit constructif.
Naji Yamdi, sur les mêmes sujets, sur les chiffres qui ont été annoncés par Lloyd.
Oui, effectivement. Alors, oui, il y a un certain nombre de mesures. Mais là encore, si vous voulez, ce sont des décisions qui sont prises pour les jeunes. Donc, qui ne sont pas forcément prises avec les jeunes. Bien évidemment, qui ont toute leur place et qui ont du sens aujourd'hui dans le contexte actuel. Vous soulignez bien évidemment la garantie jeune, qui est un dispositif innovant, qui va permettre à un certain nombre de jeunes qui sont en difficulté de pouvoir entrer dans un dispositif qui leur assurera un accompagnement un peu plus renforcé. Mais sur l'engagement politique à proprement parler, moi ce qu'on me fait remonter en tout cas, parce que je suis en charge des quartiers politiques de la ville, donc ceux qui sont dans la géographie prioritaire à Pessac. Donc nous avons deux quartiers que sont Sèche-Fort-Manoir, Châtaignier-Arago, et nous avons un troisième quartier qui reste en territoire de Veille, donc le quartier de Olivrac. Ces jeunes qui sont dans ces quartiers-là sont... Alors, je pense que si on faisait cette étude-là dans ces quartiers-là, on n'aurait pas du tout les mêmes chiffres. Un certain nombre ne s'intéressent pas du tout à la politique. Ils ne s'intéressent pas à la politique parce que c'est bien évidemment l'image qui est véhiculée, en tout cas dans les médias au quotidien, les affaires, la corruption, les enjeux de pouvoir, etc. Tout cela, finalement, les éloigne un petit peu de la politique. Et moi, je me suis battu pendant des années en leur disant « il faut aller voter, c'est important, etc. » Maintenant, je leur dis « il faut... Même si vous souhaitez peut-être pas de suite aller voter, il faut assister à des réunions, il faut venir vous informer. Et pourquoi pas vous engager aussi. On peut évidemment être dans la critique, dire le système est mal fait, etc. Mais je pense que les jeunes ont aujourd'hui toute leur place pour apporter de nouvelles solutions, contribuer aussi au changement du système. Donc voilà, moi je pense qu'il faut que nous, en tout cas qui sommes élus, mettons en place des instances où nous pouvons être interpellés beaucoup plus facilement. Il faut que nous soyons un peu plus... réactif, j'ai envie de dire, lorsque nous avons des jeunes en face de nous. Les jeunes n'ont pas du tout le même laps de temps, j'ai envie de dire. Nous sommes souvent sur des projets sur plusieurs années. En ce qui concerne les jeunes, il faut être dans une réponse, pas dans l'immédiateté, mais en tout cas dans une réponse à court terme. Et ça, aujourd'hui, le système tel qu'il est ne le permet pas forcément. J'ai plein de petites idées, notamment sur le cumul des mandats, la limitation des mandats dans le temps, etc.
On va y revenir voilà, sur ces idées-là, mais déjà je voudrais donner la parole aux jeunes qui sont là autour de la table sur leur engagement politique. Ça passe aussi par le vote. Vous avez voté aux dernières départementales, tous autour de la table. Chloé ?
Oui, moi je suis allée voter et pour le deuxième tour, j'ai même fait une dérogation parce que je pouvais pas être présente. Donc je pense quand même que j'ai fait le déplacement jusqu'au commissariat, j'ai pris mes précautions et voilà, je pense quand même que c'est une bonne forme d'engagement.
Lucien ?
Oui, j'ai voté aussi, comme à toutes les élections depuis que j'ai ma carte électorale. Mais, ouais.
Donc pour toi, c'est une obligation ?
Oui, parce que quitte à ne pas se sentir représenté aussi justement par les politiques, j'apprécierais aussi que les gens votent blanc à la limite. Au moins l'acte du vote est fait dans ces cas-là. Donc quand ils ne se sentent pas représentés, je peux même avouer que ça m'est arrivé.
On peut en parler, on peut s'arrêter voilà. Un petit peu sur ça avant de donner la parole aux autres. J'aimerais avoir votre sentiment, Sandrine Doucet et Naji Hamdi, sur la reconnaissance du vote blanc. Est-ce que pour vous, ça ne serait pas une façon de lutter un petit peu contre l'abstention des jeunes ? Parce qu'un jeune sur trois, c'est l'enquête qui disait ça aussi, un jeune sur trois ne se sent pas représenté par les partis politiques actuels.
Oui, alors si c'est une des façons d'amener l'électorat à aller vers les urnes, oui, ça peut être envisagé. On a fait d'amener des travaux là-dessus à l'Assemblée sur le vote blanc. Mais à un moment donné, il faut bien quand même que les jeunes se reconnaissent dans un parti, dans des idées. Et on en revient au même débat, c'est comment on renoue avec cette communication. Donc vous avez parlé d'initiatives locales pour arriver à renouer, ça c'est vrai, c'est essentiel. Mais il faut que les programmes politiques, et je reviens à ce que dit, communiquent là-dessus sur ce qu'ils font pour les jeunes et que ça soit bien identifié, bien lisible par des partis politiques clairement identifiés. Vous savez que vous avez énoncé tout à l'heure, vous avez parlé donc d'hommes politiques qui, ou de femmes politiques qui donneraient une mauvaise image de la politique.
Il y en a,
mais je rappelle à votre mémoire que dès que nous sommes arrivés donc aux affaires en 2012, Claude Bartolone a déclaré qu'il voulait faire de l'Assemblée nationale une maison de verre. Et ce sont des lois qui ont été prises donc pour la transparence de la vie politique et en même temps des mesures qui ont été donc par ces lois imposées notamment aux parlementaires pour que notamment tout leur patrimoine soit connu pour ne pas qu'ils soient suspectés d'enrichissement entre le début et la fin de leur mandat. On est là vraiment vers l'exemplarité qui est élevée au rang d'action politique. Voilà. Alors, vote blanc. Oui, mais en même temps des programmes qui s'adressent à la jeunesse, donc je vous ai dit que ça, des choses qui sont faites, des initiatives locales, mais en même temps tout un travail qui est fait pour, évidemment, l'exemplarité de la politique. Et tout le monde s'y plie.
Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on doit rendre le vote obligatoire, sans savoir si... on ne se pose pas vraiment la question de savoir pourquoi les gens ne vont pas voter, alors que je pense qu'on a quand même des petites idées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer de convaincre les personnes d'aller voter. Ce n'est pas de les obliger. Aujourd'hui, le vote blanc n'est pas comptabilisé. L'abstention, oui. C'est-à-dire on est capable de dire combien il y avait d'abstention. Si on considère que l'abstention est aussi une expression, en tout cas démocratique, moi, lorsque je discute avec certaines personnes, et notamment durant les élections, lorsqu'on fait du porte-à-porte et que les personnes nous disent qu'ils ne vont pas les voter, mais ils argumentent. Il n'y a pas uniquement les flemmards du dimanche qui ont envie de regarder téléfoot et voilà. Il y a aussi des personnes qui ne vont pas voter parce que le système ne leur correspond pas aujourd'hui. Donc il faut aussi les prendre au sérieux, ce sont des citoyens à part entière. Aujourd'hui, quand on parle de citoyenneté, on parle souvent de vote. Moi je pense que ça ne se limite pas à ça. Développer l'esprit critique aujourd'hui des jeunes et aussi les aider en tout cas à comprendre le système tel qu'il est aujourd'hui en place, c'est déjà la première étape. Alors on parle d'abstention, mais ce ne sont pas uniquement les jeunes. L'abstention concerne tout le monde et toutes les classes sociales. Donc ça, c'était ma première remarque sur la question du vote blanc. Donc j'espère qu'un jour, on aura un vote blanc qui sera comptabilisé. Et à ce moment-là, peut-être qu'on verra que c'est le premier parti de France et qu'on posera d'autres questions à ce moment-là.
Parce qu'aujourd'hui, le vote blanc, il n'est peut-être pas utilisé par certaines personnes qui, du coup, pour protester un petit peu leur mécontentement face au gouvernement successif de gauche et de droite, se tournent un petit peu plus vers les extrêmes, non ? C'est pas ce risque-là si,
Et le risque, bien évidemment, qu'il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on force, si on oblige les personnes à aller voter, on peut aussi se retrouver avec un vote sanction. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu la preuve avec les dernières élections, qu'elles soient les élections municipales, européennes, départementales, avec une poussée notamment de l'extrême droite, quand même, qui est assez inquiétante dans notre pays. Donc si aujourd'hui, on force les personnes à aller voter, est-ce que demain, on ne va pas se retrouver avec un vote sanction qui soit encore beaucoup plus fort qu'il ne l'est déjà aujourd'hui ? Donc ça, c'est une vraie question. Alors moi, j'ai pas de réponse à donner là-dessus, mais c'est vrai que ça reste quand même assez inquiétant. Après, sur la question du cumul des mandats, effectivement, il y a des mandats qui prennent plus de temps que d'autres. Moi, aujourd'hui, ça fait un an que je suis élu, donc comme vous le disiez tout à l'heure, je suis un jeune élu. J'ai une activité professionnelle. Quand on est jeune, on est actif. On n'a pas forcément le temps d'être à toutes les réunions le soir, à tous les conseils d'administration, à toutes les assemblées générales, d'être sur les marchés le week-end, etc. Donc c'est un ensemble, si vous voulez, de facteurs qui font que l'engagement politique, ou en tout cas dans le sens d'avoir un mandat, est un peu compliqué pour les jeunes, et notamment pour les actifs. Donc là c'est pareil, est-ce qu'on ne peut pas aussi réfléchir à quelque chose qui permettrait une certaine souplesse, en tout cas pour les actifs, donc ceux qui ont un métier à exercer, pour qu'ils puissent aussi s'engager politiquement, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le premier frein. C'est quand même difficile de faire les deux. Donc ça, c'était une vraie question, en tout cas, que je pose aujourd'hui.
Lucien.
Oui, parce qu'au-delà de la question de la transparence, par exemple, il y a aussi la question même de la fonction de député qui peut parfois un peu déplaire. Vous parliez de cumul des mandats tout à l'heure. Justement, ce fait que les députés puissent avoir plusieurs occupations et ne pas, du coup, avoir la possibilité peut-être d'exercer leur fonction de député à plein temps. Alors que ça pourrait peut-être être pour beaucoup, j'ai l'impression, plus attendu que justement des députés soient voués à leur fonction de député à 100%, je dirais, justement.
Alors qu'ils soient voués à leur mandat, vous savez que c'est un débat, parce qu'il y a des députés qui disent qu'ils ont besoin d'un mandat local pour avoir leur ancrage sur le territoire, hein, et que finalement l'un ne va pas sans l'autre. Et puis il y a des députés qui préconisent un mandat unique pour pouvoir s'y consacrer totalement. En 2017, il ne sera plus possible de cumuler un mandat de député et un mandat d'exécutif local.
Communiquer, ça passe aujourd'hui par les réseaux sociaux. Ça passe aujourd'hui par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment les politiques utilisent ces nouveaux outils pour communiquer? Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils s'efforcent de communiquer davantage sur Facebook ou sur Twitter pour toucher davantage de jeunes? Puisque c'est bien de faire des projets, etc., mais c'est communiquer pour que ça soit entendu par ces jeunes et qu'ils soient un petit peu plus sensibilisés aux actions qui sont menées.
Là, vous avez entièrement raison, et ce n'est pas parce qu'on a dépassé un certain nombre d'années qu'on est complètement hermétique à ces techniques de communication. J'ai un site internet, j'ai un blog, j'ai une newsletter, un compte Twitter, une page Facebook, enfin tout un arsenal.
Mais comment être sûr que c'est les jeunes...
Et ce matin, vous savez, je me suis... C'est vrai que là, j'ai dit on bascule dans un autre temps, parce que je parlais à des élèves du cours moyen 2, et pour leur donner des informations, je leur ai parlé avec des hashtags et des signes tweets de Twitter, de Facebook, etc. Je veux dire, on est dans ce langage-là, et je crois qu'on a intérêt, nous, les politiques, à s'en emparer.
Les élus ont bien pris la mesure de l'importance de ces nouveaux outils. Je trouve que certains même en abusent. Voilà, ça c'est mon opinion. On est souvent dans la petite phrase qui va tweeter, retweeter, ainsi de suite. On est souvent dans des petites réponses politiciennes.
C'est tomber dans les pièges de ces nouveaux outils.
Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est qu'à un moment donné, effectivement, ça peut être bénéfique. Mais attention, voilà. Attention à ne pas tomber dans l'excès d'utilisation de ces nouveaux outils. Et puis surtout, pour quoi faire ? Je crois que si on... Moi, je dis souvent, lorsqu'on est en train de travailler, c'est quand même difficile de tweeter ou d'aller mettre un commentaire sur Facebook, etc. Donc si on passe la journée à faire ça, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas forcément au travail. Ou en tout cas, on n'est pas en train d'essayer d'améliorer les choses, etc. Les jeunes utilisent ces outils. Moi, je sais que j'ai énormément de jeunes qui sont donc en amis, qui peuvent voir un petit peu les publications que je mets, etc. Mais c'est aussi ce que je déplore, c'est qu'on relaie très très peu les posts des jeunes, par exemple. Donc, et ça, c'est dommage, parce que je pense que les élus, ils devraient un peu s'appuyer aussi sur ce qui est dit, sur les analyses qui sont faites aussi par les jeunes, et les relier aussi sur leur compte, sur leur page, etc. Et ça, j'ai remarqué que c'était très peu fait. C'était souvent, on publie quelque chose et on attend que les autres... le diffuse, le relais, etc. Mais que les élus n'étaient pas forcément des très bons relayeurs, j'ai envie de dire.
François Hollande dit « Faire de la politique, c'est donner aux autres ce qu'on ne donne plus aux siens ».
Allez, ça sera la conclusion. François Hollande conclut cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi.
Merci
et
à vous.
Puis à bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Salut.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.